FM.
À tous, vous écoutez Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste et chef du gouvernement de 1997 à 2002, est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. Emmanuel Macron salue un grand destin français qui incarnait une haute idée de la République. Résultat des élections municipales hier, les plus grandes métropoles comme Paris, Lyon et Marseille sont restées aux mains de la gauche. L'extrême droite, elle, conquiert plusieurs villes moyennes et confirme sa progression. On fait le point dans notre dossier du jour à suivre. 24e jour de guerre au Moyen-Orient, l'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran pour la rouverture du détroit d'Ormuz arrive à échéance aujourd'hui. L'Iran menace de cibler le Golfe. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'ancien Premier ministre socialiste français Lionel Jospin, chef du gouvernement de 1997 à 2002, est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille. Figure reconnue, il avait réuni dans ses gouvernements des ministres socialistes, mais aussi écologistes et communistes. Emmanuel Macron salue un grand destin français qui incarnait une haute idée de la République. Résultat des élections municipales hier, les plus grandes métropoles comme Paris, Lyon et Marseille sont restées aux manches avec l'élection du socialiste Emmanuel Grégoire à Paris, la réélection de l'écologiste Grégory Doucet à Lyon et de Benoît Payan socialiste à Marseille. La France insoumise peut revendiquer plusieurs victoires comme à Roubaix avec le député David Guiraud. L'extrême droite, elle, conquiert plusieurs villes moyennes et confirme sa progression. Nous revenons très largement sur les résultats des élections municipales dans notre dossier du jour à suivre. La guerre se poursuit au Moyen-Orient. Au 24e jour, des explosions ont été entendues à Téhéran et le Golfe continue d'être frappé. L'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, point stratégique majeur pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, arrive à échéance aujourd'hui. De son côté, l'Iran menace de poser des mines navales dans le Golfe et les médias d'État iraniens publient des listes de cibles potentielles d'infrastructures énergétiques si Donald Trump met à exécution sa menace. Israël a de son côté annoncé qu'il allait intensifier ses opérations terrestres au Liban et étendre son contrôle sur le terrain après avoir détruit un pont stratégique dans le sud du pays. Et pour réaffirmer le soutien de la France au Liban, Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe plus de 400 œuvres issues du patrimoine libanais. Et conséquence de la guerre, elle pourrait provoquer la crise mondiale de l'énergie la plus grave de ces dernières décennies, selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier hier, c'était le second tour des élections municipales, un scrutin à un an des présidentielles de 2027. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Eh oui, Nawel, et si vous avez écouté la radio ou regardé la télévision hier soir, vous avez sans doute noté que tous les partis ont revendiqué la victoire. Alors, dans la réalité, eh bien, il n'y a ni grand gagnant, ni grand perdant au niveau des formations politiques. Un fait majeur, seulement un peu plus d'un électeur sur deux s'est déplacé. Une participation de 57,38%. C'est comme au premier tour, la plus faible de la 5e République, exception faite du scrutin de 2020 en pleine pandémie de Covid. Les abstentions, cette abstention massive peut être le signe d'une fatigue démocratique. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, l'électorat s'est encore moins mobilisé. Les résultats maintenant. La gauche garde de grandes métropoles. L'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche plurielle, sans les insoumis, l'emporte largement face à Rachid Dadati et la LFiste Sophia Chikirou. Benoît Payan conserve Marseille. Grégory Doucet garde à la ville de Lyon, mais son rival du centre, Jean-Michel Aulas, avec 49,33% des voix, dénonce des irrégularités et annonce déposer un recours. Bordeaux repasse au centre droit. Thomas Cazenave bat le maire sortant écologiste Pierre Urmic. Autre victoire du camp présidentiel, l'ex-ministre des Finances, Antoine Armand, à Annecy. Le RN, qui a le vent en poupe au niveau national, n'est pas parvenu à prendre des grandes villes, Marseille, Toulon et Nîmes lui échappent. Mais un allié du parti de Jordan Bardella, le patron de l'UDR, Éric Ciotti, l'emporte à Nice.
Mais il faut faire attention à la focalisation sur les métropoles, François-Xavier.
Et oui, et les listes du Rassemblement National et alliés ciotistes ont remporté 55 communes de plus de 3500 habitants, dont 38 au second tour, après 17 au premier. Et les listes RN ont fait élire 3006 conseillers municipaux, premier, second tour confondus, soit près du double du précédent record de 1544 élus lors des municipales de 2014. Le parti de la droite radicale renforce ainsi nettement son implantation au niveau local, et cela aura un impact sur les prochaines sénatoriales à l'automne prochain. Notons aussi que le fossé entre la France insoumise et le Parti socialiste s'est encore creusé durant ces élections. Leurs alliances d'entre-deux tours ont globalement échoué. LFI, qui après Saint-Denis au premier tour la semaine dernière, l'a emporté dans une autre ville populaire de Seine-Saint-Denis, La Courneuve. Autre ville marquée par un très haut taux de pauvreté gagné par les insoumis, Roubaix, dans la banlieue lilloise, derrière le député David Guiraud. Quant à la droite républicaine, ex-LR, à défaut de Paris, Lyon et Nantes, eh bien le parti a fait basculer à droite des bastions de gauche comme Brest, Clermont-Ferrand et Besançon. Enfin, le candidat à la présidentielle, ex-premier ministre patron d'Horizon, Édouard Philippe, a gagné au Havre. Un autre ancien chef du gouvernement, lui, perd une ville qu'il administrait depuis 12 ans. Pas de peau pour François Bayrou. Les électeurs l'ont évincé de son fief du Béarn. Le socialiste Jérôme Marbeau devient le premier administrateur de la ville de Pau. François Bayrou, qui pourrait bien ainsi dire adieu à d'éventuelles ambitions présidentielles. Une adresse est en effet dans la tête de tous les ténors de la vie politique française, mais aussi dans celle des observateurs politiques. Le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, la bataille de l'Élysée va pouvoir commencer.
Merci beaucoup François-Xavier pour toutes ces précisions. Focus maintenant sur les résultats à Paris. Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors la France insoumise, a été largement élu face à Rachida Dati. Le député du Parti socialiste et ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo voit dans son succès la victoire d'un Paris vivant, progressiste et populaire. On l'écoute.
Ce soir, c'est la promesse, par cette victoire, une promesse exigeante, c'est la victoire d'une certaine idée de Paris. Un Paris vivant, un Paris progressiste, un Paris populaire, un Paris pour tous. Oui ! Grâce à cette large mobilisation, l'Union des droites ne dirigera pas Paris. Parce que tout dans l'âme de notre capitale rejette l'idée d'un Paris rabougri, l'idée d'un Paris qui trie ses habitants. Ce soir, les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knapo et à ceux qui ont œuvré en coulisses pour l'union de ces droites. Et ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite. Mais ce soir, ce n'est pas la victoire d'un Paris contre un autre. Et le résultat de cette élection nous oblige et m'oblige. Dès demain, notre responsabilité, mon devoir, c'est de rassembler Paris. Je veux donc saluer tout d'abord Rachida Dati, qui a été réélue maire du 7e arrondissement. Mon bureau sera toujours ouvert pour l'opposition, dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Et les chantiers, vous le savez, sont nombreux. Je veux également saluer Sophia Chikirou, dont le score rappelle que le désir de solidarité est profondément ancré dans l'âme parisienne.
C'était Emmanuel Grégoire, maire élu de Paris. C'est donc une défaite pour sa rivale de droite, l'ex-ministre de la Culture Rachida Dati. La candidate a reconnu un élan qui n'a pas suffi, tout en estimant que le poison de la division a empêché la droite de convaincre suffisamment les électeurs de la capitale. On l'écoute.
Nous avons proposé un changement profond. Nous avons fait une campagne pleine de conviction et de détermination. Cet élan n'a pas suffi. Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment que le changement était non seulement possible, mais surtout qu'il était nécessaire. J'ai aussi subi des attaques mensongères, indignes, en dessous de la ceinture et qui sont absolument inacceptables dans une démocratie où tous les principes démocratiques ont été bafoués. Le poison de la division a produit ses effets. Même si je dois saluer toutes celles et tous ceux qui ont sincèrement appelé à voter pour moi au second tour. Je veux aussi dire à l'équipe sortante avec beaucoup de gravité qu'ils ne pourront pas, qu'elle ne pourra pas ignorer les attentes de changement exprimées par plusieurs centaines de milliers de Parisiens. Je veux aussi dire à cette équipe qu'ils devront répondre à l'angoisse des familles devant le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire. Avec tous les élus de notre liste, nous exercerons une vigilance de chaque instant pour que des réponses soient apportées, quelles qu'elles soient, sur chaque sujet et à la hauteur des enjeux.
C'était Rachida Dati, candidate de droite à la mairie de Paris. Et enfin, on l'a appris ce matin, Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste et chef du gouvernement de 1997 à 2002, est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. Les réactions de la classe politique française sont unanimes. Le Premier ministre Sébastien Lecornu salue un serviteur fidèle de l'État. Pour Jean-Luc Mélenchon, il était un modèle d'exigence. Marine Le Pen évoque, elle, un homme de gauche intègre. Marc-Aurèle Barrès, vous nous en dressez son portrait.
Premier secrétaire du Parti Socialiste, membre du Conseil constitutionnel ou encore Premier ministre, c'est une figure reconnue de la politique française qui disparaît, un membre rassembleur de la gauche qui s'en va. Lionel Jospin commence sa carrière en 1965 au ministère des Affaires étrangères après ses études à l'ENA. Rapidement, il suit le parcours de François Mitterrand. En 1981, quand ce dernier devient président, Lionel Jospin prend la tête du Parti Socialiste. En 1988, à la réélection du président, il devient ministre de l'Éducation nationale. Après un premier échec à l'élection présidentielle de 1995 face à Jacques Chirac, le socialiste accède à Matignon en 1997. Pendant près de 5 ans, il dirige un gouvernement de gauche pluriel réunissant socialistes, communistes et écologistes. Son passage est marqué par plusieurs réformes emblématiques, dont la mise en place des 35 heures et la création de la couverture maladie universelle. Séisme politique. En 2002, Lionel Jospin subit un échec historique à la présidentielle, alors que la place lui semblait promise dans un duel de second tour contre le président Jacques Chirac. Il perd la première manche de l'élection face à l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen se retrouve propulsé au second tour. Le socialiste annonce son retrait de la vie politique. Malgré cet échec, celui qui se décrivait comme un austère qui se marre restera une voix respectée. Il soutient François Hollande en 2012 face à Nicolas Sarkozy, puis Raphaël Glucksmann aux européennes de 2019 et Anne Hidalgo en 2022. Pour Emmanuel Macron, c'est un grand destin français qui incarnait une haute idée de la République qui disparaît.
Merci Marc-Aurèle Barrès pour toutes ces précisions. C'était les dossiers du jour. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.